Bonjour à tous, toujours une joie de chanter avec vous. Merci de votre patience envers les musiciens des fois. En tout cas, ça y est, c'est l'été et vous avez peut-être un peu plus de temps pour faire des projets de bricolage chez vous. Et pour cela, je trouve que les tutos de YouTube sont très pratiques, très utiles pour réaliser, pour faire du bricolage ou bien une recette de cuisine. Mais aussi, je trouve quand même qu'il y a un petit bémol avec ces tutos YouTube, c'est que, en fait, quand on les regarde, on a l'impression que c'est très facile. Je veux dire, tout semble si facile, c'est réalisé dans des conditions idéales, par des experts, avec des outils, des machines de pro qu'on a ou qu'on n'a pas chez soi. Et puis, de toutes les étapes qui prennent du temps, ou qui sont difficiles, parfois sont coupées carrément dans la vidéo, ou bien sont mises en accéléré. Donc, à regarder ces vidéos, ce qui est très pratique et très utile, mais on finit par croire que couler une dalle de béton, ça prend 3 minutes, 4 minutes. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Sans parler du temps de séchage et tout. Donc à la fois, c'est très pratique, c'est très utile, c'est tutoriel, mais un côté des fois un peu irréaliste ou décourageant. Et nous avons étudié ces dernières semaines l'épître, la lettre de Jacques. Et peut-être, à force d'étudier Jacques, vous avez eu le même sentiment. C'est vrai que la lettre de Jacques est très appréciée pour son côté pratique, très utile. Cette lettre est comme une série de tutoriels sur comment vivre la vie chrétienne. Et je rappelle un peu la série que nous avons fait ces dernières semaines. Comment traverser une épreuve? Comment mettre en pratique la Bible? Comment avoir la vraie foi? Comment maîtriser la langue? Comment éviter les disputes? Comment préparer l'avenir? Comment gérer l'argent? Effectivement, des choses très utiles, très pratiques. Mais pour cette même raison, l'épître de Jacques peut aussi être décourageante ou semble nous dépasser. Toutes ces choses pratiques à faire, déjà, oui, chacun est un défi en soi. Ensuite, quand on nous dit qu'il faut tout faire à la fois, pas juste pendant une semaine, on s'est donné le défi de maîtriser la langue pendant une semaine, mais vous comprenez, c'est pendant toute une vie. En plus de cela, il faut le faire dans des conditions souvent moins qu'idéales. C'est-à-dire face à l'opposition d'un monde qui nous conseille tout le contraire souvent. Et en plus, on n'est pas des experts, on n'est pas des pros, on a souvent une nature humaine à gérer, donc fatigue, faiblesse, malade. Donc quand il faut faire non pas juste une de ces choses, mais l'ensemble, pas pendant quelques jours, mais toute la vie, et dans des conditions difficiles, de fatigue, de stress, de maladie, là, on ressort un peu. Des fois un peu découragé, à la fois c'est très pratique, très utile, c'est tutoriel, mais à la fois, quand on examine notre propre vie, il faut avouer que nous avons raté un peu entre le tuto et la réalité, c'est pas toujours le cas. Je pense que vous êtes d'accord, même cette semaine, vous avez certainement raté un, voire plusieurs de ce domaine. Si notre salut en dépendait, si l'amour de Dieu dépendait de la réussite de cette liste qu'on trouve en Jacques, on sera tous sans espoir. Mais heureusement, Jacques termine son épître avec, sur un ton un peu plus rassurant, un peu plus compatissant, avec des encouragements réalistes pour vivre notre foi. Donc ce matin, je vais vous inviter à lire avec moi la fin de la lettre de Jacques, donc chapitre 5, versets 7 à 20. Donc voici le mot de la fin, Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramena un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc pour terminer sa lettre, Jacques nous rappelle qu'un élément majeur de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, c'est la patience. Et ça, ça me rassure quand je pense à tout ce que Jacques nous appelle à faire. Et des fois, on progresse, des fois, on progresse moins, des fois, c'est dur d'attendre dans cette vie chrétienne, mais Jacques nous appelle à la patience. Oui, Dieu est en train d'accomplir un plan parfait pour notre vie, pour ce monde, mais ça se fait pas dans un tuto YouTube de 3 minutes. On dit, par exemple, que Rome ne fut pas faite en un jour. C'est vrai aussi pour le chrétien. Le chrétien mature et tout l'accomplissement du plan de Dieu ne sont pas faits en un jour, mais ça se fait à travers une vie de patience, et cette patience va s'exprimer grandement dans la prière, comme nous allons voir ce matin. Donc ce matin, le grand appel, je vous lance cet appel, usez de patience, et pour patienter, usez de prière. Alors je veux pas que mon message use votre patience, je veux que ce message vous aide à user de patience. Donc tout d'abord, regardons le premier grand appel de ces versets, c'est user de patience. Dans les versets 7 à 11, c'est le grand thème de la patience, l'appel revient constamment. Verset 7, soyez patient. Verset 8, soyez patient. Verset 9, prenez pour modèle de patience les prophètes. Verset 11, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Aussi, verset 11, vous avez entendu parler de la patience de Job. Donc, c'est un grand appel à la patience. Alors c'est déjà intéressant parce que dans cette lettre qui nous montre plein de façons pratiques à vivre notre foi, eh bien la patience c'est quand même un défi si vous aimez des choses très pratiques. Parce que justement la patience ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on fait pas. C'est la patience dans un sens c'est ne rien faire, c'est attendre, c'est s'attendre à Dieu, c'est attendre sa solution, attendre sa délivrance, attendre. Des fois, nous-mêmes, on aimerait faire des choses pour arranger une situation et Dieu nous appelle à ne rien faire. D'ailleurs, ça, c'est au cœur du message de la foi et du salut. Hein. Je veux dire, c'est Dieu nous sauve, pas parce que nous avons fait quelque chose pour lui, mais parce que nous sommes attendus à lui pour le salut, nous avons arrêté de faire. Et c'est lui qui a accompli à notre place. Le salut, et puis donc cette attitude de patience où on s'attend à Dieu pour sa délivrance, son salut, va marquer toute la vie chrétienne. Jacques, pour nous aider à la patience, il nous donne trois exemples de patience qu'on pourrait voir rapidement. User de patience comme celle d'un agriculteur, user de patience comme celle des prophètes, les prophètes de l'Ancien Testament, et puis user de patience comme celle de Job. C'est les exemples que donne Jacques et on peut essayer de s'en inspirer un peu rapidement de chacun. User de patience comme celle d'un agriculteur. Verset 7, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients. Un agriculteur, vous comprenez, une grande partie de son travail consiste dans l'attente, la patience. Un agriculteur, combien même qu'il voudrait, il ne peut pas accélérer la croissance de la plante, de l'arbre. Il ne peut pas accélérer l'arrivée de la pluie, celle du printemps, celle de l'automne, comme mentionne Jacques. Et il ne peut pas accélérer le jour de la moisson. Il faut juste attendre. Il y a des choses à faire pendant, mais le cœur du travail, c'est pas lui qui le fait. Nous aussi, c'est un bon rappel, n'essayez pas d'aller plus vite que Dieu dans votre vie. Ça peut même abîmer la plante. Chez nous, nous avons un petit citronnier en pot. Et ma fille Angeline, dès qu'elle voit une fleur, elle le cueille. Bon, je ne sais pas si on verra des citrons verts un jour, mais vous aussi, dans la vie chrétienne, elle est souvent comme ça. Des fois, on voudrait accélérer le plan de Dieu ou lui apporter une solution, mais il nous invite à patienter. De peur ne pas abîmer le fruit mûr, le précieux fruit, comme il appelle. Il enchaîne verset 9, intéressant, « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » D'ailleurs, quel est le contraire de la patience? C'est l'impatience. Mais comment l'impatience se manifeste le plus souvent? Verset 9, en se plaignant des autres. Donc, imaginez-vous dans les bouchons, et ça ne roule pas si vite que vous voulez, donc vous vous impatientez. Comment s'exprime votre impatience en ce moment-là, dans les bouchons? En fait, vous vous plaignez de toutes les voitures devant vous. Mais ceux qui sont derrière vous se plaignent aussi de toutes les voitures devant eux. Donc, ils se plaignent de vous et vous vous plaignez des autres. Donc, tout le monde se plaint. Mais pour exprimer cette impatience, c'est typique quand on traverse une épreuve, quand la solution de Dieu ne vient pas et notre patience est éprouvée, souvent la première chose qu'on fait, c'est de se plaindre des autres. Voilà, mes frères et sœurs ne font pas assez comme il faudrait pour moi, ou on ne prie pas assez, ou un tel m'énerve, tout ça. Donc, mais c'est souvent une expression de notre incapacité à agir. Mais rappelons du laboureur, finalement, s'il attend la pluie, quelque part, c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, c'est juste l'épreuve de la patience. User de patience comme celle d'un agriculteur, aussi comme celle des prophètes. C'est un autre exemple qui peut peut-être nous inspirer. Prenez pour modèle, verset 10, de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. On ne sait pas exactement quel prophète il a en tête, certainement un peu l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament. Je retiens trois grands, vous avez certainement peut-être entendu parler. Hein, donc Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'est des grands, parmi les grands livres prophétique de l'Ancien Testament, mais ces trois prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, d'ailleurs, ils ont tous posé la question à un moment ou à un autre, mais jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que le peuple va revenir à toi, jusqu'à quand ça n'ira pas, jusqu'à quand on verra la délivrance? Ils ont vécu ça. Ces trois-là, comme les autres prophètes, ils ont passé une bonne partie de leur vie à ne pas être écoutés, à ne pas être respecté par le monde autour d'eux, à ne pas voir l'accomplissement de leurs prophéties. Beaucoup ont finalement prophétisé des choses lointaines et qu'ils n'ont pas vues de leur vivant. Donc, mais ils se sont accrochés à Dieu et ils ont continué à suivre sa parole. Donc leur exemple est parlant. Et puis, user de patience comme celle de Job, un troisième exemple qu'il nous donne, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. L'exemple est très fort, la patience de Job, parce que Job a eu des moments d'impatience. D'ailleurs, Job chapitre 21, verset 4, Job dit lui-même, « Est-ce sans raison que je perds patience ?» Ça, il dit à Dieu. Est-ce, en quelque sorte, dans ce qu'il vit, est-ce que c'est sans raison que je perds patience? Donc, à un moment, il lui-même a vécu des moments d'impatience. Il n'avait pas les réponses. Il traversait l'épreuve et le comble de ce livre de Job, c'est un livre de l'Ancien Testament et Job, c'est ce personnage qui a beaucoup souffert. Mais l'intrigue de l'histoire, c'est que Job ne savait pas pourquoi il souffrait. Et donc, il cherche une explication, il veut parler à Dieu, il veut que Dieu intervienne, mais pendant un temps, il ne reçoit pas de réponse. Et donc, lui-même avait l'impression parfois de perdre patience, mais le regard du Nouveau Testament, c'est que lui, il a persévéré, il a patienté, malgré le fait qu'il n'a jamais su pourquoi l'épreuve lui est arrivée. Et pendant l'épreuve, il ne pouvait pas savoir quelle sera la fin. Nous le savons. Nous savons la fin. Il a fini par être béni, richement béni, qui est aussi le sort réservé à tous les enfants de Dieu. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc nous le savons maintenant que la fin sera pleine de miséricorde et de compassion. Mais pendant, c'est difficile à voir comment tout ça va s'arranger. Mais Job, pendant tout ce temps, il est resté intègre, même dans ses questionnements, même dans ses doutes, même dans ses sentiments de perdre patience, il est resté accroché à Dieu. User de patience, c'est l'appel de Jacques. D'ailleurs, en parlant de patience, il enchaîne, Jacques, avec l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité. Verset 12, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Peut-être il change carrément de sujet, mais peut-être c'est lié. Je pense notamment au vœu de mariage. Ce oui-là, quand on dit oui à quelqu'un d'autre, ça demande, oui, des fois, de la persévérance, de la patience, de l'attente, hein. À l'époque, vous savez, un peu dans la culture juive, Jésus a dénoncé un peu le même manque d'honnêteté. Parfois, on s'arrangeait, si on jurait par le ciel, c'était plus sérieux, plus engageant que si on jurait par la terre, ou si on jurait par le temple, ou l'or du temple. Donc, c'était des manières de un peu s'arranger pour ne pas devoir être honnête dans ses engagements. Le monde, encore aujourd'hui, a toutes sortes d'astuces pour ne pas être complètement honnête. Les enfants, hein, si je croise mes doigts derrière mon dos lorsque je fais une promesse, alors je ne suis pas obligé de le tenir. Et puis les adultes ont leur façon aussi de faire. Et Jacques nous rappelle que votre oui soit oui. Il nous appelle à l'honnêteté, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et des fois, quand on s'engage, effectivement, la malhonnêteté, c'est une raccourci souvent qui nous arrange. Mais quand notre oui est oui, des fois, il faut tenir dans le temps. Et c'est une épreuve de patience. Des fois, on s'engage et que c'est inconfortable. Comme j'ai dit, le cas d'un mariage, c'est ça. Il y a certains jours, tout est merveilleux. D'autres jours, c'est moins facile. Mais le oui, là, nous tient et nous aide à patienter et aller de l'avant. Donc, grand appel à la patience dans la vie chrétienne. Nous ne savons pas quand sera l'avènement du Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il nous en réserve. Et des fois, on se décourage avec tout ce que Jacques nous a appelé à faire. J'essaie de maîtriser ma langue, mais là encore cette semaine, c'était pas gagné. Et on se décourage, mais c'est pour ça que Jacques dit à la fin, mais soyez patients, mes frères. Dieu est en train de faire une œuvre dans votre vie, dans ce monde. Et il mène son projet à terme, mais comme l'agriculteur, comme les prophètes, comme Job, il faut attendre la fin. Mais malgré tout, on a du mal à ne rien faire. La patience d'attendre, c'est dur. Comme disait Boris, quand on attend le client qui est en retard, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve ou pas? Et on veut ne pas rien faire, mais des fois avec Dieu, il faut apprendre à ne rien faire et lui laisser faire. Mais si vraiment vous voulez faire quelque chose, en attendant, Jacques termine sa lettre en parlant de la chose la plus pratico-pratique pour vivre la foi et la patience, et c'est la prière. Bien souvent, nous sommes dans des situations où la seule chose à faire, c'est de prier. Et entre chrétiens, on se le dit souvent, qu'est-ce que je peux faire? Ben, la seule chose à faire, c'est prier. Mais Jacques veut nous convaincre que ce n'est pas une solution juste de dernier recours, avec très peu de chances que ça marche. Non, la prière, elle est efficace, elle est au cœur de notre foi, elle nous permet d'exprimer cette patience, cette confiance en Dieu qu'il va amener ses projets à terme pour notre bien et pour sa gloire. Alors, usez de patience et pour patienter, usez de prière. Dans le verset 13 à la fin du livre, verset 20, c'est le sujet. Le premier sujet, c'était la patience, et maintenant le grand sujet, c'est la prière. Et donc, pour terminer son épître, Jacques va lister un peu tous les cas de figure de personnes qu'on trouve dans l'Église, dans une Église, et nous allons voir que la prière convient dans tous les cas. Donc, Jacques nous fait un peu la liste, et peut-être vous allez vous retrouver dans un de ces cas de figure ce matin. Premier cas de figure, c'est « tout va bien dans ma vie en ce moment, tout va bien. Je suis dans la joie, j'ai eu les résultats d'examen, c'est bien, je suis en vacances, tout va bien. » Deuxième cas, c'est « je souffre, mais je m'accroche, je prie, je m'accroche, je souffre, mais je m'accroche. » Là aussi, on l'a dans l'Église, et il nous encourage. Tous ces cas de figure font partie de la vraie vie. Et après, il y a un troisième cas, je souffre, peut-être je suis malade ou je souffre physiquement et je sens que je me sens faiblir, je me sens faiblir dans ma foi, dans ma vie de prière, dans ma patience. Et là, j'ai besoin d'aide, au secours. Et puis le quatrième cas de figure, je décroche, je m'éloigne de la vérité, la patience, j'arrive plus et Dieu me déçoit, donc je décroche et je m'éloigne de la vérité. C'est ce que nous... Tous ces cas de figure arrivent dans ce texte et Jacques va nous aider à voir comment gérer chacun, notamment à savoir prier. Donc les deux premiers sont traités rapidement, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qui prie? Quelqu'un parmi vous est dans la joie, qui chante des cantiques? Dans un sens, ces deux cas couvrent toutes les circonstances de la vie, les bonnes et les mauvaises. Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante, quelqu'un qui souffre, qui prie. Mais en plus, il faut reconnaître que la vie est souvent constamment un mélange des deux. Jacques lui-même avait dit en chapitre 1, « Si tu souffres, regardez ça comme un sujet de joie. » Et l'inverse est vrai aussi, quand tu es dans la joie, la souffrance est toujours là quand on vit une vie d'église. Par exemple, si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent. Donc même si je suis dans la joie, la sympathie fait que je souffre avec ceux qui souffrent. En préparant le concert de la chorale avec le thème du cœur, j'étais marqué par cette citation de Dostoïevski qui disait « La douleur et la souffrance sont toujours inévitables pour une grande intelligence et un cœur profond. Les vrais grands hommes doivent, je pense, avoir une grande tristesse sur la terre. » La souffrance est toujours inévitable pour une grande intelligence et un cœur profond. Les vrais grands hommes doivent, je pense, avoir une grande tristesse sur la terre. Et ça décrit pas mal Jésus lui-même, l'homme parfait, l'homme par excellence, celui qui avait la plus grande intelligence, le cœur le plus profond. Lui était rempli de joie dans la volonté de Dieu, mais il était homme de douleur parce qu'il partageait la souffrance des autres. Tout ça pour dire que nous avons, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, raison de se tourner vers Dieu, de lui parler, de le prier. C'est l'expression la plus basique, la plus pratique de notre foi. Peut-être vous dites, mais moi je ne sais pas prier, je n'ai jamais fait ça, et tout va bien dans ma vie, je n'ai pas besoin. Au moins, dire merci, ça c'est facile, apprendre à prier en disant merci à Dieu pour que tout va bien. Peut-être vous dites, moi, je ne sais pas prier, mais là je souffre. Vous pouvez au moins appeler Jésus, aide-moi, viens à mon secours. Bien sûr, quand on est dans la souffrance, on peut aussi chanter des cantiques. Il y a beaucoup de psaumes, comme le 86 qui ont été lus, qui sont faits même pour les situations de souffrance. Donc on peut chanter dans la souffrance et prier dans la joie. Ça marche aussi. En tout cas, ça résume déjà une bonne partie de la vie chrétienne, des moments de joie, des moments de souffrance, mais dans chacun, on se tourne vers Dieu, on exprime notre louange et notre reconnaissance dans des cantiques, comme nous le faisons ici à l'église, ou nos peines et nos besoins dans la prière. Mais ensuite, Jacques parle d'un cas de particulier de souffrance, au verset 14. C'est le verset qui vous a certainement intrigué. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce verset a conduit à de nombreuses interprétations et de pratiques diverses. On va écarter certains et retenir d'autres. À mon sens, ce verset ne décrit pas un sacrement. Le catholicisme, comme vous savez, est basé sur la notion des sacrements. Les sacrements, ce sont des rites, des gestes cérémoniels faits par un prêtre qui confèrent la grâce et le pardon. Et donc, à partir de ce verset, ils ont développé le sacrement de l'extrême onction. Un des sept sacrements, ici, c'est l'extrême onction. Et dans l'idée, c'est que quelqu'un qui est au seuil de la mort, pour être sûr que ses péchés sont pardonnés, qu'il est prêt à entrer dans l'éternité, il est oint par le prêtre avec une huile bénite, une huile sacrée. Mais nous estimons, nous croyons que tout le système de sacrement s'éloigne de l'offre du salut tel qu'il est présenté dans la Bible. Nous croyons que le pardon et le salut sont offerts gratuitement par la foi individuelle de la personne en Jésus-Christ. Pas besoin de rites. Gestes cérémoniels. D'ailleurs, lorsqu'on prête ici, et ça ne correspond pas tout à fait au verset, même plus, parce que quand c'est vraiment au seuil de la mort et qu'on pratique cette onction pour être sûr que tous les péchés sont pardonnés, quelque part, on ne peut pas vraiment envisager un rétablissement, une guérison, parce que sinon, il faut recommencer l'extrême onction. Mais un peu le problème des sacrements aussi, c'est que des fois, puisqu'ils confèrent le pardon, l'intérêt, c'est de le faire soit en toute fin de vie ou en tout début de vie, comme ça, on est un peu protégé. D'où le baptême des bébés très tôt ou l'extrême onction très tard, c'est une espèce d'assurance. Mais là encore, ça nous éloigne de le message de l'Évangile où c'est un acte personnel de foi dans Jésus-Christ. En plus, le mot « oindre » ici a pu porter confusion. Ça peut faire penser à ce que faisaient les prêtres dans l'Ancien Testament pour oindre un roi, un des cantiques que nous avons chanté, que Christ est loin de l'Éternel. Effectivement, le mot « oindre », c'est un mot « oindre », c'est Christ, c'est Christos. Mais ce n'est pas le mot ici. Et on a confondu des fois ce qui se passe dans l'Ancien Testament avec les prêtres et les sacerdotes pour oindre les oints. Avec ce qui se passe ici, mais nous ne cherchons pas à remplacer le rôle et l'œuvre unique de Jésus-Christ qui a accompli une fois pour toutes le salut. Et maintenant, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires, de prêtres. Donc, je vous encourage à vous éloigner de la conception sacramentaliste. Ce verset ne décrit pas non plus une formule magique, un génie dans la lampe, que disposent les responsables d'église. Nous rappellerons tout le reste que la Bible enseigne sur la prière et notamment tout ce que Jacques vient de dire sur la patience. Si toute souffrance, tout problème, toute maladie peut être immédiatement enlevée par une prière, pas besoin de patience. Malheureusement, cette conception de la prière comme une formule magique guérison automatique de génie dans la lampe a conduit beaucoup de personnes à penser, voilà, si tu es encore malade, quelque part tu n'as pas eu suffisamment de foi, tu n'as pas assez prié, ou tu es dans le péché. Mais attention, Jacques vient de mentionner Job, et le grand tort des amis de Job était de lui dire, tu es malade, tu souffres, donc tu as péché. Tu as un problème avec Dieu. Et justement, la patience de Job était de supporter ce genre de discours de ses amis. Et heureusement, il avait la maturité, la sagesse de dire, oui, je souffre, mais ce n'est pas en lien avec ma relation avec Dieu ou mon péché, ça ne peut pas être ça. De la même manière, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il a prié trois fois, une fois pour une guérison qu'il n'a pas reçue. Et ce n'est pas parce qu'il manquait de foi ou qu'il n'avait pas la bonne recette d'huile ou qu'il n'a pas fait la démarche qu'appelle Jacques. Donc, si ce verset ne décrit pas un sacrement d'extrême onction de malade, si ce verset ne décrit pas une formule magique qui règle tous les problèmes de la vie, qu'est-ce que ce verset décrit, au fait? Moi, je pense que ce verset décrit une vie d'église saine où la prière et le soin spirituel des membres, notamment des membres malades, préoccupent les responsables dans la prière. À mon sens, Jacques parle à quelque chose en tête, plus qu'une simple maladie physique, un toux, une rhume. Dans les épîtres, le mot malade ici, quelqu'un est-il malade, est le plus souvent traduit comme faible. Il est traduit malade dans les évangiles, donc je pense qu'il y a une notion de maladie physique, mais qui pourrait aller au-delà de ça. Jacques semble parler d'une condition physique, une maladie, mais accompagnée d'une faiblesse spirituelle, un épuisement moral où la personne reconnaît ne pas avoir la force lui-même, elle-même, de prier, de patienter. Donc elle fait appel aux anciens qu'elle connaît, qu'elle aime. Parce que sinon, il faut juste renvoyer au cas précédent. Si je souffre, je suis malade, je prie. Et Jacques dit, mais ici, c'est comme s'il y a plus. De toute façon, si quelqu'un est malade, il fait bien d'appeler d'abord les médecins, pas que les anciens. Mais nous reconnaissons que le physique, l'émotionnel, le spirituel sont souvent liés. Et c'est là où les anciens, les responsables d'église, peuvent avoir un rôle sans remplacer celui des médecins. Ensuite, la mention d'huile s'inspire pas tant de l'onction sacrée de l'Ancien Testament, comme je disais, mais je dirais plus des soins médicaux de l'époque. Même quand Jésus, quand il accomplissait des guérisons miraculeuses dans les évangiles, souvent il utilisait la salive ou la pommade ou de l'huile ou de l'eau pour rappeler, je pense aussi, qu'il œuvre à travers des moyens normaux. Comme les anciens peuvent aussi prier que Dieu bénisse le travail des médecins et les soins. En tout cas, ce que les anciens visent par les prières, c'est un soin spirituel qui restaure, qui révèle, qui relève la personne dans sa relation avec Dieu. Dans ce sens, qui restaure, qui sauve, qui relève, comme dit le verset 15. Ce qui explique pourquoi Jacques va beaucoup parler dans les versets suivants du péché, de la confession du péché. La personne n'est pas forcément malade à cause du péché, mais il dit, verset 15, « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » On voit que là, la guérison est spirituelle, une fois qu'on confesse ses péchés. Donc on peut imaginer une personne souffrant physiquement, moralement, émotionnellement, et a l'impression d'arriver au bout de sa patience et de sa foi, et se sent glisser peut-être dans l'incrédulité ou dans l'amertume ou dans la plainte des frères et sœurs. Et là, les anciens peuvent l'aider, prier pour lui, et l'accompagner vers une restauration spirituelle. L'exemple qu'il donne par la suite, d'ailleurs, d'une prière efficace, c'est intéressant. Il cite l'exemple d'Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Et Élie, quand il a prié et sa première prière, c'est qu'il ne pleuve pas. Si Élie voulait juste la bénédiction, la guérison physique du pays, il n'aurait pas prié qu'il ne pleuve pas. Mais il a prié qu'il ne pleuve pas. Parce qu'il voulait voir une guérison spirituelle du peuple. Et c'était à travers cette manque de pluie et qui a conduit ensuite à cette confrontation avec le roi et les prophètes de Baal pour que le peuple, Élie prie pour qu'il pleuve, le peuple a pu être dans une démarche de revenir à Dieu. Et c'est ça la vraie guérison. C'est ce que les anciens visent pour les membres de l'Église aussi. Bien sûr, nous prions souvent pour la guérison physique des personnes et nous sommes reconnaissants quand Dieu exauce. Et nous avons bien des cas où il le fait. Mais le discernement, la sagesse des anciens, comme tout membre d'église, devrait aussi dire que quand nous prions pour une personne, nous le faisons avec foi, dans la volonté souveraine de Dieu, qui poursuit une œuvre parfois bien plus grande que juste maintenant une guérison physique, mais un salut éternel, d'où tout l'appel à la patience et le regard sur le jour éternel de ces versets. Un mot aussi sur la confession. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Le principe général que je vous conseille, c'est qu'on confesse un péché commis à la personne offensée, que nous avons offensée. Un péché secret commis contre Dieu, on le confesse à Dieu. Un péché commis contre un individu, on peut aller voir cet individu et confesser et restaurer la relation. Un péché commis de manière publique ou qui affecte un public, une assemblée, une église, un groupe, une personne, là on confesse le péché à l'assemblée. Donc je crois que ce verset décrit une culture d'église où le pardon et la repentance et la grâce viennent facilement et nous sommes transparents les uns aux autres. Par contre, ce verset n'impose pas une pratique où certaines se mettent à la place de Dieu en disant « tu dois me confesser tes péchés ». Ça pourrait conduire à une emprise malsaine les uns envers les autres, chose qui peut exister tant chez les évangéliques que les catholiques. Donc, nous voulons d'abord apprendre aux gens à faire la paix avec Dieu, se confesser auprès de Dieu et trouver la paix avec lui. C'était le conseil d'un pasteur il y a bien des siècles, quand l'écart se faisait un peu entre les protestants et les catholiques. Il dit, un pasteur protestant, nous nous efforçons d'instruire les hommes de telle sorte que toute âme blessée par le péché puisse apprendre à se guérir elle-même en Christ. Eux, au contraire, feraient en sorte que toutes les plaies semblent incurables, à moins que le prêtre n'y mette la main. Donc, c'est vrai que nous voulons apprendre les gens à aller directement à Christ et trouver le pardon en lui, trouver le soulagement en lui. Mais ensemble, en Église, les anciens, nous nous entraidons à faire cela. Et donc, c'est cette réalité de patience et de prière dans la souffrance, dans la maladie, que nous voulons vivre à l'EBTM. Et comme Vincent disait dans ses annonces, c'est un peu ce que nous avons vécu la semaine dernière. Si vous étiez à la réunion de membres, nous avons été plusieurs très touchés par la prière qui porte les uns les autres. Ça, c'est le travail de tous. Et puis, les anciens de l'Église, de l'EBTM, essaient de rester au courant de la vie des membres. Vous savez que si vous êtes membre, vous recevez un mail de temps en temps de notre frère Luc, qui cherche à prendre de nouvelles, qui demande des sujets de prière. C'est déjà facilité un peu cette habitude, cette culture d'Église qui permet de vivre ces versets en Jacques. C'est de l'occasion peut-être d'exposer une situation qui vous pèse, d'appeler à la prière pour une situation où votre patience est usée et vous voulez le renfort des autres. En tout cas, si vous usez de prière dans les trois premiers cas, vous n'allez pas vous retrouver dans le quatrième cas. Tout va bien, je chante des cantiques, j'exprime ma foi. Je souffre, mais je m'accroche dans la prière. Je souffre et je me sens faiblir, mais j'appelle les responsables, les anciens de l'Église qui me portent. Tout ça ne peut qu'être relevé et encouragé dans la foi. Mais le quatrième cas existe aussi, et Jacques termine avec ça. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, verset 19, s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La bonne nouvelle, c'est que même quand on décroche, il y a manière d'être ramené sur le bon chemin. Dites-vous, si c'est votre cas, qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour vous, qui vous aiment, qui veulent vous ramener, je pense que vous pouvez être touché par ça. Personne ne voudrait dire « je m'éloigne de Dieu » et personne ne s'intéresse. Non, Dieu nous donne des frères et des sœurs, une vie d'église qui, des fois, qui aide à rebooster notre foi, à nous ramener. Il y a des frères, des sœurs qui arrive à ramener d'autres dans le bon chemin. Là aussi, c'est parfois tout un travail de patience pour ceux qui voient d'autres s'éloigner. Mais la promesse, c'est que Dieu est prêt à couvrir une multitude de péchés. Il le fait, il l'a fait par Jésus-Christ. On sait qu'il peut couvrir nos péchés parce qu'un jour, Jésus est mort pour nos péchés. Un jour, Jésus, sur la croix, il a prié, il n'a pas été exaucé. Sa prière de délivrance, ses questionnements n'ont pas été exaucés. Non pas parce qu'il manquait de foi, non pas parce qu'il manquait de prière. Il était le juste par excellence. Mais à ce moment, il portait nos péchés pour les couvrir, pour les effacer, pour nous donner la guérison éternelle. Et donc, quelque part, nous imitons Jésus-Christ qui, lui, est allé chercher nous, les pécheurs égarés, qui a utilisé beaucoup de patience à notre égard pour nous ramener à lui. Et dans une vie d'église, nous pouvons nous en inspirer et continuer à prier les uns pour les autres. Quand tout va bien, quand c'est difficile, quand on s'éloigne de Dieu, la prière est là pour agir. Que le Bethléem soit un lieu où nous puissions vivre cette foi qu'a exposé Jacques tout au long de ses chapitres. Et encore ce matin, dans la patience et dans la prière, que Dieu vous aide, qu'il vous bénisse. Nous terminons dans la prière. Seigneur, nous reconnaissons que la patience ne nous vient pas facilement, surtout à notre époque où tout est rapide, accéléré, instantané. Mais nous te prions de nous aider encore ce matin. Regardez à toi, tu étais patient avec nous. Tu as su nous attirer à lui en temps et en heure voulue. Tu as su parler à nos cœurs de manière qui nous a rassurés, qui nous a gagnés, pas de manière prématurée et brutale. Et nous te remercions, nous te prions de nous accorder à chacun de nous dans ce que nous vivons en ce moment, cette foi qui s'exprime dans l'attente, dans la patience, dans la confiance, dans ton plan. Ou qui n'est pas forcément à notre rythme, mais le tien est toujours mieux et plus sage. Merci pour la prière qui nous entretient dans ces moments de patience, notamment des moments de souffrance, de maladie. Nous te remercions de ce que tu écoutes nos prières et que tu accordes des restaurations, des guérisons, des relevements. Et nous te prions de le faire encore pour nos frères et sœurs qui peuvent traverser ces moments difficiles. Nous te prions de les garder près de toi. S'ils sont éloignés de toi, nous te prions de les ramener et de nous aider à rester fidèles dans la prière, dans la patience, en attendant que tu le fasses. Merci pour ce culte que nous avons pu te rendre ce matin. Que tu sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.